Vous écoutez, on lit pour vous.
Les inégalités climatiques. Un texte de Gérard Bérubé paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir. La taxe carbone se retrouve au cœur d'un débat. Petite réflexion sur le thème des inégalités climatiques. L'impact est chiffré. Les 10% des personnes les plus riches de la planète sont responsables des 2/3 du réchauffement climatique observé depuis 1990. Pire, les émissions des 10% des personnes les plus riches en Chine et aux États-Unis, qui représentent à elles seules près de la moitié de la pollution mondiale liée au carbone, ont chacune multiplié par 2 ou 3 les extrêmes de chaleur dans certaines zones tropicales, ajoutent les auteurs d'une étude publiée au début mai dans Nature Climate Change. Dit inversement, si tout le monde avait le même bilan carbone que les 50% les moins fortunés de la population mondiale, le réchauffement supplémentaire de la planète aurait été minime sur la période observée. Dans une analyse publiée en janvier 2025, Oxfam évoquait également cette concentration des émissions de gaz à effet de serre, GES, au sommet de l'échelle de la richesse. Les personnes formant le 1% des plus riches de la planète ont épuisé leur part du budget carbone annuel mondial dans les 10 premiers jours de 2025. En comparaison, il faudrait près de 3 ans à une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population mondiale pour épuiser sa part du budget carbone annuel. On entend par budget carbone annuel mondial la quantité de CO2 qui peut être ajoutée à l'atmosphère sans que le réchauffement de la planète dépasse 1,5 degré centigrade. Dans son rapport d'octobre 2024, Oxfam faisait ressortir que si le monde maintient ses émissions actuelles, le budget carbone sera épuisé dans environ 4 ans. En comparaison, si les émissions de chaque personne sur la planète correspondaient à celles des 1% les plus riches, ils seraient épuisés en moins de 5 mois. Et si tout le monde commençait à émettre autant de carbone que les jets privés et les superyachts d'un milliardaire moyen, le budget serait épuisé en 2 jours. Au Québec, l'Institut de la statistique du Québec indiquait en mars dernier que, pour 2019, l'empreinte carbone des ménages appartenant au quintile supérieur de revenus est plus élevée que celle des ménages de chaque autre quintile. Par rapport à celui le plus bas, en moyenne, un ménage appartenant au quintile supérieur de revenus a une empreinte carbone 3,4 fois supérieure. Pas que la consommation. Mais cela vaut pour les habitudes de consommation. On retient de l'étude publiée dans Nature Climate Change qu'elle a pour principale contribution de quantifier l'impact de la concentration de la richesse privée sur les événements climatiques extrêmes et d'aller au-delà de l'empreinte carbone liée aux choix économiques personnels pour s'étendre aux investissements financiers. On passe ainsi de la comptabilité des émissions carbone à la responsabilité climatique, résume dans un texte de l'agence France Presse, AFP, son autrice principale, Sarah Schongart, de l'Université de Zurich. Ici, les auteurs de l'étude constatent qu'au-delà des modes de vie, les investissements financiers des plus aisés sont parmi les principales sources d'alimentation des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'illustration, cela est particulièrement pertinent pour les 1% et 0,1% les plus riches, dont les contributions transfrontalières à l'aggravation des extrêmes climatiques locaux proviennent principalement des investissements plutôt que de la consommation. Pour reprendre les données d'Oxfam, près de 40% des investissements des milliardaires analysés dans le cadre de l'enquête 2024 concernent des industries très polluantes telles le pétrole, l'exploitation minière, le transport maritime et le ciment. En moyenne, le portefeuille d'investissement d'un milliardaire est presque 2 fois plus polluant qu'un investissement dans le S&P 500. Sur quel levier agir? Investissement, consommation, sur quel levier pourrait-on agir? Pour les auteurs, cette réalité pourrait guider des politiques climatiques mieux ciblées en tenant compte des inégalités d'impact, suggère le portail Futura, auparavant Futura Science. Les auteurs de l'étude soulignent d'ailleurs que leurs travaux pourraient servir de guide ou d'éclairage aux interventions publiques selon le principe du pollueur-payeur. Les détenteurs de capitaux pourraient rendre des comptes de leurs impacts climatiques par le biais d'impôts progressifs sur la fortune et les investissements favorisant les émissions carbone, mettent-ils en exergue. On évoque les résultats de recherche qui ont fait la démonstration que la taxation des émissions liées aux actifs est plus équitable qu'une taxe carbone générale, dont le poids est davantage ressenti plus l'on descend dans les quintiles de revenus. L'approche du pollueur-payeur devrait s'appliquer à tous. Cela dit, pour les auteurs de l'étude publiée dans Nature Climate Change, leur constat montre comment les émissions de GES provenant de la consommation et des investissements attribuables aux groupes de population les plus riches ont influencé de manière disproportionnée le changement climatique actuel. Dans la foulée, ils viennent illustrer les co-bénéfices de l'atténuation des fortes disparités fondées sur la richesse dans les responsabilités en matière d'impact climatique et la nécessité de réaligner les flux financiers des investissements pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. De telles politiques peuvent également améliorer la perception de la justice climatique, un facteur essentiel pour favoriser l'acceptation sociale de l'action climatique. En 2024, le Brésil avait plaidé en faveur d'une taxe de 2% sur le patrimoine net des particuliers détenant plus $1 milliard d'actifs. Bien que les dirigeants du G20 aient convenu de coopérer pour garantir une imposition efficace des personnes fortunées, les récentes initiatives sur cette question sont pour la plupart au point mort, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, rappelle le texte de l'AFP. C'était « Les inégalités climatiques », un texte de Gérard Bérubé paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir.
Le principe de prudence, c'est aussi pour les cyclistes à l'égard des piétons. Un texte commandité paru le 7 juin 2025 dans la presse. Depuis 2018, le Code de la sécurité routière inclut un principe de prudence qui stipule que les usagers de la route doivent agir avec une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. Si les cyclistes font partie de ces usagers non protégés, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont eux aussi tenus de veiller à la sécurité d'une catégorie de gens encore plus fragiles, les piétons, en particulier les enfants et les personnes avec des limitations fonctionnelles. Quand on circule à vélo, il ne faut surtout pas tenter une manœuvre rapide pour contourner un piéton, explique Magali Bebron, directrice des programmes à Vélo-Québec. La trajectoire d'un piéton peut être imprévisible. Il est important de ne jamais présumer qu'on aura le temps de passer devant ou derrière lui, insiste-t-elle. Voici trois situations qui illustrent de bonnes pratiques à adopter pour assurer la sécurité et le confort des piétons. À l'arrêt d'autobus. Traverser une piste cyclable peut représenter un danger pour les piétons, surtout lorsque la piste sépare un trottoir d'un arrêt d'autobus. Le danger est par ailleurs accru pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui, faute de pouvoir voir ou entendre clairement les cyclistes, n'ont pas les repères nécessaires pour évaluer si la voie est libre. Nathalie Chartrand, personne aveugle se déplaçant avec un chien guide et membre du regroupement des aveugles et amblyope du Montréal métropolitain, RAAMM, témoigne. On ne vous voit pas et on a du mal à vous entendre, surtout quand c'est plus bruyant. On ne sait donc pas quand vous êtes là et quand vous arrivez. Yvon Provencher, agent de mobilisation et défense des droits, RAAMM, rappelle que les personnes aveugles et malvoyantes doivent être en mesure de traverser des pistes cyclables en se sentant en sécurité. Vous pouvez les aider en étant vigilant et en respectant les règles du bon usage de l'espace public. Pour permettre à tout le monde de traverser de façon sécuritaire la piste cyclable, les cyclistes doivent faire preuve d'une vigilance accrue. Cela implique de ralentir à l'approche des arrêts d'autobus ou des intersections et d'anticiper tout imprévu. Les cyclistes doivent aussi respecter les zones prioritaires, notamment les traverses piétonnes délimitées par des bandes jaunes où ils doivent impérativement céder le passage. Près de l'autobus scolaire. En début de journée, un autobus scolaire s'immobilise avec son panneau d'arrêt déployé et ses feux clignotants allumés. Un jeune garçon s'avance pour traverser la rue et monter à bord, mais avant d'y parvenir, il doit franchir une piste cyclable. Chaque matin, ce scénario se répète aux quatre coins du Québec. Lorsque l'autobus active son panneau d'arrêt et ses feux intermittents, tous les usagers de la route, y compris les cyclistes, doivent respecter les règles de sécurité en vigueur. Le Code de la sécurité routière stipule que, tout comme les automobilistes, les cyclistes doivent s'immobiliser à une distance de 5 mètres de l'autobus lorsque ce dernier est à l'arrêt, afin de protéger les enfants qui traversent la rue, précise Magali Bebron. Il s'agit d'une règle essentielle pour assurer la sécurité des jeunes piétons. Dani Martel, conductrice d'autobus, dit « Il faut comprendre que les enfants sont très imprévisibles. Ils ont tellement hâte de voir leurs parents, c'est difficile de les retenir. On fait notre possible pour tout vérifier avant d'ouvrir la porte de notre autobus, mais les cyclistes doivent vraiment s'arrêter pour laisser les enfants débarquer en toute sécurité. » Pour éviter d'attendre, le cycliste pourra tout simplement descendre de son vélo et dépasser l'autobus à pied jusqu'à ce que la voie soit libre et sécuritaire. Avec le brigadier scolaire. Les brigadiers scolaires jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des enfants qui traversent les rues aux abords des écoles. Selon le Code de la sécurité routière, tous les usagers de la route, y compris les cyclistes, doivent respecter leurs instructions. Lorsqu'un brigadier est en fonction, les cyclistes doivent impérativement s'arrêter pour attendre que les enfants aient fini de traverser la rue et que le brigadier ait baissé son panneau d'arrêt, indique Magali Bebron. Malcolm, brigadier scolaire, cinéaste et peintre, est catégorique. Il n'y a aucun intérêt à faire du slalom entre les parents et les enfants. Non seulement c'est dangereux, mais cela génère aussi un stress inutile pour tout le monde. Pensez aux personnes âgées, aux parents avec leurs poussettes, aux enfants qui commencent tout juste à apprendre à faire du vélo. Magali Bebron rappelle que la priorité piétonne doit être respectée à tous les passages pour piétons, bien sûr, mais aussi sur les rues commerciales piétonnisées qui acceptent les cyclistes. On se trompe rarement quand on ralentit ou qu'on s'arrête pour laisser passer un piéton, conclut-elle. C'était Le principe de prudence, c'est aussi pour les cyclistes à l'égard des piétons, un texte commandité paru le 7 juin 2025 dans La Presse.
Déficit commercial record en avril 2025 au Canada avec les droits de douane sur l'automobile. Un texte de Craig Wong de La Presse canadienne, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. Le Canada a connu son plus important déficit commercial de marchandises jamais enregistré avec le reste du monde, soit 7,1 milliards de dollars en avril 2025, en raison de la forte baisse des exportations découlant des droits de douane imposés par les États-Unis. Selon Statistique Canada, ce résultat, qui faisait suite à un déficit de 2,3 milliards de dollars en mars 2025, s'explique par la chute des exportations vers les États-Unis, qui a plus que compensé la hausse des expéditions vers d'autres destinations mondiales. Catherine Judge, directrice générale et économiste principale chez Marché des capitaux CIBC, a qualifié ces chiffres de « très mauvais ». En fait, le commerce s'est totalement effondré, a indiqué Mme Judge lors d'une entrevue. Évidemment, les États-Unis sont notre principal partenaire commercial, donc l'augmentation des échanges avec d'autres pays n'a pas vraiment eu d'importance. Je pense que cela illustre simplement notre dépendance envers les États-Unis et la difficulté de diversifier notre base commerciale au-delà de ce pays. Avril 2025 a été le premier mois complet de droits de douane entre le Canada et les États-Unis, avec l'application de droits de douane dans le secteur automobile. Le Canada a enregistré un excédent commercial de marchandises de 3,6 milliards avec les États-Unis en avril 2025, soit le plus petit surplus avec le principal partenaire commercial du pays depuis décembre 2020. Ce résultat s'explique par une baisse de 15,7% des exportations vers les États-Unis et de 10,8% des importations en provenance de ce pays. Par ailleurs, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est établi à 10,7 milliards en avril 2025, en hausse par rapport à 9 milliards en mars 2025. Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 2,9% pour s'établir à 18,3 milliards en avril 2025, tandis que les importations en provenance de ces pays ont progressé de 8,3% pour atteindre un record de 29 milliards. Ce rapport sur le commerce faisait suite à celui de Statistique Canada, selon lequel le produit intérieur brut réel a progressé à un taux annualisé de 2,2% au premier trimestre de 2025. Selon Mme Judge, le premier trimestre avait été stimulé par les achats de biens canadiens par les entreprises américaines avant l'entrée en vigueur des droits de douane, mais cette situation est désormais derrière nous. Si l'on considère non seulement les chiffres du commerce, mais aussi les mesures de la confiance des entreprises et des consommateurs, ainsi que la hausse du taux de chômage, tout cela concorde avec une économie qui tourne bien en deçà de son potentiel, et la Banque du Canada devrait sans aucun doute réduire ses taux d'intérêt, a-t-elle déclaré. Shelley Kaushik, économiste principale chez BMO Marché des capitaux, a indiqué que les importations et les exportations d'automobiles avaient enregistré des baisses à deux chiffres, mais que la diminution des échanges commerciaux était assez généralisée. Presque toutes les catégories d'exportation canadienne ont diminué en avril 2025. Il ne s'agit donc certainement pas uniquement d'une question d'automobile, même si c'est bien sûr le principal changement dans le monde des droits de douane en avril 2025, a-t-elle expliqué. Les exportations totales ont reculé de 10,8% en avril pour s'établir à 60,4 milliards, soit leur plus faible niveau observé depuis juin 2023. Les exportations de véhicules automobiles et de pièces ont notamment chuté de 17,4%. Pour leur part, les exportations de biens de consommation ont fléchi de 15,4%, tandis que celles de produits énergétiques ont diminué de 7,9%. Les importations totales ont baissé de 3,5% en avril 2025 pour s'établir à 67,6 milliards. Les importations de véhicules automobiles et de pièces ont reculé de 17,7%, alors que celles de machines, de matériel et de pièces industrielles ont diminué de 9,5%. En termes réels, les exportations totales ont reculé de 9,1% en avril, tandis que les importations ont diminué de 2,9%. Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que les exportations mensuelles de services en avril 2025 ont diminué de 0,5% pour s'établir à 17,9 milliards, tandis que les importations de services ont reculé de 1,1% pour atteindre 18,3 milliards. En combinant les échanges internationaux de biens et de services, l'agence a indiqué que le déficit commercial total du Canada avec le monde s'élevait à 7,5 milliards en avril 2025 contre 2,7 milliards en mars 2025. C'était déficit commercial record en avril au Canada avec les droits de douane sur l'automobile, un texte de Craig Wong de la presse canadienne, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.
Mêle-toi de tes affaires. Un texte de Mariana Mazza, paru le 15 juin 2025 dans La Presse. Se mêler de ses affaires. Une chose qui m'arrive, parfois. Parce que selon moi, les affaires, ça n'appartient pas toujours à quelqu'un. Il y a des affaires qui sont totalement privées et qui sont intouchables. Mais il y a d'autres affaires privées qui peuvent aussi me concerner, qui finissent par me concerner, du moins, par nous concerner. Les plus grands mouvements sociaux, après tout, ont été lancés par des gens qui ne se sont pas mêlés de leurs affaires. Je vais vous raconter la fois où j'ai conclu, dans ma tête, que malgré les apparences, certaines affaires étaient de mes affaires. J'étais dans le sud avec deux amis. Nous étions dans un tout-inclus à nous prélasser au soleil en sirotant tout le bonheur sucré possible. Mon cerveau était à off. J'ai enlevé le pied de la pédale d'accélération pour laisser descendre l'aiguille de vitesse tout doucement. J'en avais besoin. Le premier soir de notre voyage, on prenait l'apéro tous les trois. Nous étions assis à écouter le musicien jouer un cover de la chanson « Hotel California » quand une jeune géo-québécoise est venue se présenter. Elle nous a demandé si elle pouvait se joindre à nous pour un verre. Elle nous a raconté qu'elle venait d'arriver la veille pour son contrat de travail. Qu'elle était excitée de commencer sa vie d'adulte rémunérée comme professeure de sport pour les vacanciers en République dominicaine. Elle était resplendissante dans son excitation. On lui a demandé si son équipe de travail était le fun. Elle nous a répondu que oui, même si son chef d'équipe était bizarre avec elle. On l'a questionnée à propos de ce qu'elle trouvait bizarre chez lui. Elle nous a expliqué qu'il lui faisait des avances et qu'il avait, lors de son premier soir, essayé de l'embrasser. C'est à ce moment que j'ai bondi de mon tabouret en criant « Il faut que tu le dénonces !» J'ai vu le regard de mes amis, le regard de la jeune fille, leur surprise face à mon intensité. J'ai vu la gêne dans les yeux de notre confidente qui regrettait presque de nous avoir raconté ce qu'elle avait vécu. Elle voulait nous rassurer en nous disant que c'était correct et qu'elle attendrait de voir si la situation persistait avant d'agir. À ce moment, j'aurais pu lui souhaiter bonne chance et la laisser partir s'amuser avec les jeunes de son âge au soleil pendant les 6 prochains mois de sa vie. J'aurais pu lui dire de revenir nous voir dans la semaine si elle voulait parler et se confier. Mais je ne me suis pas mêlée de mes affaires. J'ai trouvé que cette histoire arrivait trop souvent. que le silence des victimes devait être trop lourd à porter pour elles. Qu'être étrangère dans un pays dont elle ne parle pas la langue lui donnait probablement encore moins envie de dénoncer. Qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité face à une personne en position d'autorité et qu'elle avait besoin d'alliés. J'étais vraiment dérangée par cette situation qui était problématique pour elle, mais qui peut-être pour ce jeune homme semblait tout à fait normale. Je me suis mise à sa place. Elle, qui ne veut pas perdre son travail en dénonçant quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer et qui a plus de pouvoir qu'elle au sein de l'entreprise. À la place de sa mère, qui s'inquiétait probablement que sa fille parte une demi-année travailler dans un autre pays, une autre culture, mais qui faisait confiance aux équipes qui l'entouraient. À la place des potentielles autres victimes qui se sont tues et qui ont porté cette honte dans le silence, elles aussi. Après une grande discussion à cœur ouvert, avec l'accord de notre nouvel ami, nous sommes allés ensemble voir son supérieur, celui qui se trimbalait tous les soirs avec son sourire de publicité de gomme-ballon en nous souhaitant la bienvenue, pour lui expliquer la situation. Nous lui avons fait comprendre que c'était très délicat pour sa nouvelle employée de venir le voir, car cela ne faisait même pas 24 heures qu'elle était arrivée et qu'elle était déjà aux prises avec une situation problématique. Que c'est une situation qui était complètement inacceptable et qu'il ne pouvait la tolérer dans son établissement ou dans ses équipes. Donc, c'est ça. Je ne me suis pas mêlée de mes affaires. Et c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire dans cette situation. Quelques jours plus tard, notre amie québécoise est venue s'asseoir à côté de nous au coucher du soleil. Elle avait un gros sourire. Elle nous a remerciés. À la suite de notre demande d'enquête et grâce au courage dont elle a fait preuve en s'exprimant sur la situation, son chef d'équipe a été remercié. C'était en fait la 7e plainte contre lui, en moins d'un an. Je me demanderai toujours pourquoi il a fallu se rendre à 7 pour agir concrètement. Mais une chose est certaine, me mêler de mes affaires à ce moment-là aurait été la pire décision de ma vie. C'était « Mêle-toi de tes affaires », un texte de Mariana Mazza, paru le 15 juin 2025 dans La Presse.